Et nous avions laissé donc cette histoire après la mort du roi Henri VIII d'Angleterre, au moment où l'Angleterre, donc à la suite de toutes les vicissitudes tumultueuses de la vie de cet infâme bonhomme, avait finalement été amenée à rallier la réforme. Ça va ? Bien. Nous allons voir ce soir l'Angleterre sous les successeurs d'Henri VIII. À la mort de ce dernier, c'est le fils de Jane Seymour qui lui succède sous le nom de Édouard VI. Édouard VI est âgé de 10 ans à la mort de son père et c'est son oncle, Édouard Seymour, qui exerce la régence pendant la minorité du jeune roi. Édouard Seymour a des sympathies protestantes non dissimulées et il va militer pour que, dans le cadre de l'Église d'Angleterre, s'introduise la théologie calviniste. Il a pour adjoint dans ce domaine Cramer, qui va donc élaborer une confession de foi calviniste, qui jusqu'à ce jour d'ailleurs est encore la confession de foi de l'Église d'Angleterre. Ça s'appelle Confession de foi de Westminster, n'est-ce pas, qui est une confession de foi très intéressante. Nous l'avons étudiée à plusieurs reprises en doctrine, sur la Trinité notamment, n'est-ce pas ? Et la deuxième contribution du tandem Cramer-Seymour, si vous le voulez, c'est le livre de prière, qui jusqu'à aujourd'hui encore est le livre de prière officiel de l'Église d'Angleterre et qui porte le nom de Common Prayer Book, le livre de prière du commun, enfin de... Comment est-ce qu'on peut dire ? Populaire, quoi, à grande diffusion, c'est l'idée. La confession de Westminster, pour revenir à elle, comprend 42 articles et cette confession est largement inspirée de la confession d'Augsbourg. C'est la contribution essentielle d'Édouard VI à l'histoire d'Angleterre, car en 1553, il meurt, Édouard VI meurt, mais son règne a fait faire un pas supplémentaire important à l'Angleterre dans la voie de la réforme. À Édouard VI succède, alors là, une période beaucoup plus trouble, le règne de la reine Marie, 1553-1558. C'était ni plus ni moins que l'épouse, c'est une catholique, et cette femme qui a été élevée dans le catholicisme, très influencée par le catholicisme espagnol en particulier, abolit tous les actes de la réforme qui ont été édités par Édouard VI et avant lui par Henri VIII. Donc, elle tente de ramener tout simplement l'Angleterre dans le giron romain. Seulement, il y a un problème. C'est le Parlement. Le Parlement refuse, alors à fond, qu'on revienne sur l'autonomie religieuse de l'Église d'Angleterre. D'autre part, Mary rêve d'épouser Philippe II, le roi d'Espagne, ce qui aurait signifié placer l'Angleterre sous le contrôle politique de l'Espagne. Et là aussi, le Parlement s'oppose, mordicus, à ce mariage. Néanmoins, pendant tout son règne, où il va y avoir ce conflit latent et parfois violent entre la reine et le Parlement, Marie va multiplier les exactions et les persécutions contre les véritables disciples du Seigneur, ce qui lui vaudra d'ailleurs le nom de Marie la Sanglante, Bloody Mary en anglais, Et sous son règne, on comptera notamment 290 martyrs brûlés ou décapités ou soumis à des supplices divers, 290 martyrs, parmi lesquels le fameux Cramer, qui avait été l'auteur de la confession de foi de Westminster et du Common Prayer Book. Heureusement, Mérouille ne vit pas longtemps, et en 1558, elle meurt, et il est remplacé par, finalement, la seule fille, la seule descendante, on peut dire, d'Henri VIII qui reste, ça, c'est-à-dire la princesse Élisabeth. La princesse Élisabeth est la fille d'Anne Boleyn. Elle va avoir un long règne, 1558 à 1603. Et c'est une femme qui ne se mariera jamais, bien qu'elle ait eu de nombreux prétendants. Et de ce fait, il va y avoir avec elle forcément un problème de succession, problème de succession du trône d'Angleterre, et nous verrons comment précisément, à sa mort, ce problème va se solutionner. Bon, elle n'est pas, elle est plutôt défavorisée par la nature, et ce qui fait que le nombre de prétendants ne se bouscule pas pour demander sa main. Mais enfin, il y a quand même un prétendant qui se présente au début de son règne. C'est à nouveau Philippe II d'Espagne. Non pas qu'il soit tellement attiré par la personnalité de la princesse ou de la nouvelle reine en soi, mais parce qu'il a des ambitions politiques et que ce qu'il n'a pas réussi de réaliser avec Mary, il espère le réaliser avec Élisabeth. Seulement, à ce stade, surgit un autre problème, outre l'opposition du Parlement qui demeure entière à ce mariage, comme il l'avait été pour le mariage de Philippe II et de Mary. Mais il y a aussi cette fois-ci une autre opposition qui naît, c'est l'opposition du pape. En effet, pour la papauté, qui n'a pas reconnu le mariage d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, le fruit de ce mariage est une union et un enfant illégitime. Puisque l'union est illégitime aux yeux de Rome, l'enfant qui en est né est aussi illégitime. Donc, pour Rome, Élisabeth est une bâtarde et ne peut en aucune manière être offerte en mariage au roi très catholique qu'est le roi d'Espagne. Donc, les projets matrimoniaux de Philippe II et d'Élisabeth échouent à ce sujet-là. Ce faisant, Élisabeth, qui a quand même de la personnalité, n'apprécie pas du tout le jugement que la papauté porte sur elle, bien qu'elle ne soit pas une personne très attirée par le protestantisme, loin s'en faut, mais tout simplement parce que le pape s'est opposé à elle, elle va nourrir une dent terrible contre le catholicisme à partir de ce moment et pour le restant de ses jours. C'est pas très spirituel comme attitude, n'est-ce pas? Mais ça va faire le jeu, ça va faire l'affaire de tous ceux qui, en Angleterre, ont souffert, évidemment, sous le règne de Marie la Sanglante. Élisabeth rompt donc avec l'Espagne, et vous savez que ce qu'il n'a pu obtenir par la diplomatie, Philippe II va tenter de l'obtenir par la guerre. Il va tenter un débarquement en Angleterre, et pour ce faire, rassembler la fameuse invincible armada, qui aurait dû écraser l'Angleterre, l'Espagne étant la première puissance du monde à l'époque. Et vous savez comment une tempête providentielle, dans laquelle les chrétiens d'Angleterre verront la main de Dieu, vraisemblablement avec raison, ils priaient pour cela, n'est-ce pas? Une tempête providentielle va détruire la formidable flotte rassemblée par les Espagnols, rendant ainsi vain leur tentative de débarquement. Ce faisant donc, Élisabeth s'est tournée vers le protestantisme à fond, non pas par conviction, nous l'avons vu, mais uniquement par opportunisme politique. Elle abolit les décisions de Marie et avec elle, l'Église d'Angleterre, ou encore Église anglicane, naît officiellement. Néanmoins, comme son père, dont elle a hérité pas mal de défauts et de travers, n'est-ce pas, Élisabeth est une personne qui n'aime pas du tout l'esprit de la Réforme. C'est une personne qui est très autoritaire, qui aime le centralisme romain. Et n'eût été la malheureuse affaire de son mariage avec Philippe II, elle aurait vraisemblablement été beaucoup plus attirée par le catholicisme que par le protestantisme. Aussi, pour l'Église d'Angleterre, cherche-t-elle un moyen terme. Et elle tient, finalement, ce n'est pas une théologienne, elle s'en fiche, si j'ose dire. C'est une politique. Et peu importe finalement la théologie, mais ce qui lui importe, elle, c'est que l'Église soit véritablement à sa botte. C'est que l'Église soit un instrument docile de son pouvoir. Par conséquent, elle va organiser l'Église anglicane à fond sur le modèle romain, sur le modèle hiérarchique et épiscopal romain. Elle aime beaucoup la pompe romaine, les cérémonies, les encens, les costumes des prêtres, etc. Et elle va garder tout cela. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on appelle la High Church dans l'Église d'Angleterre, n'est-ce pas, la Haute Église, est l'héritière de cette tradition qui remonte à Élisabeth. Par contre, Élisabeth est les véritables réformateurs. Par exemple, le réformateur écossais dont nous allons parler, si le temps nous le permet aujourd'hui, John Knox, n'est-ce pas, c'est un personnage qu'elle ne peut pas voir. Elle le hait d'une manière totale. C'est aussi la raison pour laquelle elle est la doctrine de la justification par la foi. Parce que, pour elle, la justification par la foi, qui place l'homme dans une responsabilité individuelle et personnelle devant Dieu, ouvre la porte à une démocratie qu'elle est. Et notamment une démocratie dans le gouvernement de l'Église. Et ça, elle ne l'accepte pas. Aussi, l'Église d'Angleterre va être une espèce d'église bâtarde, si l'on peut dire. Elle a l'idéal d'une église protestante avec des fondements catholiques. C'est une espèce de savant dosage entre les deux. En 1559, l'Église d'Angleterre passe sous le contrôle de la couronne, sous le contrôle direct de la couronne. Et finalement, après beaucoup d'hésitations, Élisabeth finit par accepter le Common Prayer Book. Mais elle reste fort attachée, nous l'avons vu, à la forme épiscopale et à l'idée de la succession apostolique. Elle finit aussi par accepter la confession de foi de Westminster, mais, je dirais, beaucoup plus à contre-cœur, et après en avoir émasculé les aspects les plus dangereux dans la perspective qui était la sienne. Néanmoins, tous les évangéliques d'Angleterre ne sont pas du tout enchantés avec, finalement, ce qui sort des tergiversations d'Élisabeth. Et nombreux sont ceux qui cherchent des formes beaucoup plus simples d'adoration que la pompe flamboyante qui a été instaurée par Élisabeth. Et il y a, pour la première fois, un mouvement dans l'Église, ce que l'on pourrait appeler « ecclesiola in ecclesia », ça veut dire une petite église dans la grande église. C'est-à-dire que se crée sous le couvert de l'Église anglicane et dans son sein, sans rompre avec elle, des mouvements qui sont d'une tendance nettement plus évangélique, et qui se dépouille beaucoup plus de la pompe romaine et de ce qui fait finalement la religion officielle. Ce faisant, ils sont dans une situation qui leur permet d'échapper, en tout cas à condition de se montrer discret, aux persécutions. Et petit à petit, cette tendance qui existe encore aujourd'hui dans l'Église d'Angleterre va prendre le nom de « Low Church », la basse Église, par opposition à la « High Church », la haute église, beaucoup plus pompeuse et beaucoup plus liturgique. Maintenant, cette Low Church est aussi alimentée par de nombreux exilés qui fuient la persécution, soit sur le continent, et qui viennent se réfugier en Angleterre, où précisément le protestantisme ou une certaine forme de protestantisme a trouvé droit de cité. Puis, dans un deuxième temps, vont venir aussi des réfugiés d'Écosse au moment des vicissitudes qui vont justement aboutir au bout d'un temps à l'implantation de la réforme en Écosse, mais qui pour l'heure sont persécutés. Donc tout ce monde-là se retrouve en Angleterre, et ces gens-là qui connaissent la persécution, qui sont beaucoup plus radicaux évidemment, se retrouvent mal dans l'Église d'Angleterre telle que l'a conçue Élisabeth. Et ils sont à la recherche d'une forme d'adoration plus pure, d'où le nom qu'ils vont prendre, qu'on va leur donner ou qu'ils vont prendre, Puritans, les Puritains. Ça veut dire ceux qui sont à la recherche d'une forme plus pure d'adoration. Et le puritanisme, qui n'est pas du tout la caricature qu'on en a fait, une espèce de système hypocrite de vertu pudibonde, n'est-ce pas, mais qui est un mouvement du Saint-Esprit authentique et véritable, n'est-ce pas, est basé sur deux principes. Le rejet total du système épiscopal et l'attachement à la doctrine calviniste pure et dure, si j'ose dire. Par conséquent, c'est une rupture avec l'Église d'Angleterre. Et là, se reconstitue, si vous voulez, le mouvement évangélique qui avait précédé l'institution de l'Église d'Angleterre, qui avait été combattu par Henri VIII, si vous vous en souvenez, même après sa rupture avec Rome, et qui là va trouver un nouveau terrain de prédilection, et qui va chevaucher sur les deux pays, l'Angleterre et l'Écosse. Plus tard, évidemment, il y aura une expansion aux États-Unis, mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons en son temps. Certains puritains vont même devenir membres du Parlement, ce qui prouve que ces gens-là vont avoir pignon sur rue et donc une influence également politique. Et à partir de 1580, alors, les puritains, des puritains, pas tous, mais un certain nombre de puritains rompent officiellement avec l'anglicanisme. Et ils créent une nouvelle église que l'on va appeler église congrégationaliste. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que, justement, ces gens-là rejettent le système épiscopalien. Et les églises ne sont plus constituées selon une structure pyramidale et hiérarchique, mais prônent l'autonomie des églises locales, les congrégations, comme on dit en anglais, congregations, n'est-ce pas ? La congrégation locale est souveraine. Elle décide elle-même de son propre destin et n'est soumise à aucune autorité extérieure à elle. Tel est le principe du congrégationalisme. Bien évidemment, la couronne n'apprécie pas tellement cette rupture et les congrégationalistes, qu'on appelle en anglais non-conformistes, les non-conformistes, vont être persécutés. D'ailleurs, ce nom non-conformiste montre que c'est un rejet, c'est une expression négative. Ça. Ceux qui ne se conforment pas ne sont pas dans les normes. Et il va y avoir donc une émigration des puritains. Et cette émigration va prendre deux chemins. Le premier, ce sera la Hollande. La Hollande qui, entre-temps, après toutes sortes de vicissitudes que nous verrons dans la suite de cette étude, est passée à la réforme. Et la réforme a provoqué aussi une révolution politique. Les provinces unies, comme on les appelle à l'époque, se sont affranchis du joug espagnol au cours d'une terrible guerre et ce faisant sont devenus un des premiers États démocratiques du monde. Ce qui fait qu'il y a place pour les non-conformistes pour les persécutés de tous bords qui se retrouvent en Hollande, y compris les Juifs d'ailleurs. Juifs persécutés par l'Inquisition espagnole et portugaise. Deuxième pays d'émigration, deuxième pays de la liberté, ce sont les États-Unis, le Nouveau Monde, que l'on a découvert depuis peu. Et c'est la fameuse épopée du Mayflower, c'est pas les Pilgrims, les pèlerins du Nouveau Monde, qui arment un bâtiment, c'est pas le Mayflower, le fleur de mai, pour aller créer, en quelque sorte, une nouvelle terre promise de l'autre côté de l'Atlantique. Et les pères fondateurs de la nation américaine sont les descendants de ces puritains, les descendants de ces non-conformistes qui ont été persécutés par la reine Elisabeth Ier. C'est pourquoi, d'ailleurs, les États-Unis modernes ont gardé une certaine influence de la Bible, finalement, qui a été la pierre angulaire de la fondation, justement, du Nouveau Monde, quand les pèlerins du Mayflower, après de navigation terrible, n'est-ce pas, extrêmement difficile, ont fini par aborder, donc, dans la Nouvelle-Angleterre, ce qu'on appelait la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire la côte ouest des États-Unis. Eh bien, leur premier soin, c'était la fin du mois de novembre, a été de se jeter à genoux et de bénir Dieu, n'est-ce pas, d'où rendre grâce à Dieu, Thanksgiving en anglais. Et c'est devenu aujourd'hui une fête nationale aux États-Unis, le Thanksgiving Day, le jour d'action de grâce, le jour où les pèlerins du Mayflower ont posé le pied sur les États-Unis, sur le sol des États-Unis, ce qui devait devenir les États-Unis, qu'on appelait à cette époque-là la Nouvelle-Angleterre. Et ils ont rendu grâce à Dieu donc pour cela. Et alors ils ont construit la société moderne sur les principes qui étaient les leurs, sur les principes congrégationalistes de la démocratie. De la démocratie à la fois en matière religieuse, mais aussi en matière politique. Un petit peu, si vous voulez, sur à la manière des cantons suisses, c'est pas l'autogestion des communautés, des colonies, comme on les appelait à ce moment-là, c'est pas l'autogestion totale des membres entre eux, quoi. Et la totale indépendance, enfin une indépendance relative, parce qu'elle allait en s'amenuisant, parce que la structure politique empêche une indépendance totale. Mais enfin, c'est pas minimum, une structure, c'est pas le plus légère possible, pour laisser le maximum d'autonomie aux communautés locales. Et ça a modelé la mentalité des États-Unis jusqu'à nos jours. Bon, ça, c'est un autre problème sur lequel nous aurons justement l'occasion de revenir. Revenons, si vous voulez, à l'Angleterre, où il y a aussi des immigrants qui viennent alors de l'Europe de l'Est. En effet, en 1547, en Allemagne, une bataille donc, oppose protestants et catholiques. Les protestants sont battus et 4000 nobles sont exterminés à Prague. Les autres sont exilés. Une bonne partie fuit vers l'Angleterre, d'autres vers la Pologne, où ils fondent la ville de Königsberg, n'est-ce pas ? C'est le début aussi de la colonisation de la Pologne. En 1556, une petite dizaine d'années plus tard, l'empereur Ferdinand accorde le trône de Bohême à son fils, Maximilien, et une nouvelle vague de persécution chasse des protestants de cette région-là, de Bohême-Moravie, n'est-ce pas, en direction de l'Angleterre. Il faudra attendre quelques années à nouveau pour que la Bohême-Moravie devienne officiellement protestante et secoue le joug romain. Ça, nous y reviendrons également. 1579, n'est-ce pas, c'est la date de cet événement, qui est en même temps la date en 83, donc 1583, la Bible est traduite en tchèque, et c'est, comme ça avait été pour la Bible de Luther, n'est-ce pas, un chef-d'œuvre de la littérature tchèque jusqu'à nos jours. Maintenant, pour revenir à l'Angleterre, il y a un troisième mouvement qui naît dans cette époque-là, à Londres notamment. Ça avait commencé déjà en 1555 sous Édouard VI, puis ensuite sous Élisabeth. C'était un mouvement qui était issu de ces fameux mouvements Lollards qui dataient de Wycliffe, donc du XVe siècle, un siècle auparavant, nous avons vu cela. Ces Lollards, qui étaient donc les disciples de Wycliffe persécutés, qui avaient retrouvé un second souffle au moment de la réforme de Luther en Angleterre, qui avaient plus ou moins subsisté abominablement persécutés par Henri VIII, et puis qui, sous l'influence de ce qui se passe aux Pays-Bas, eh bien, vont créer alors des assemblées aussi non conformistes, mais qui, elles, vont pratiquer pour la première fois le baptême des adultes. Donc, on peut dire les ancêtres des églises baptistes. C'est très intéressant, parce qu'ici, donc 1555, nous sommes pratiquement contemporains de la Réforme. Et nous voyons que le mouvement baptiste remonte à la Réforme elle-même. N'est pas une dissidence de la Réforme, mais un des grands courants, un des trois grands courants de la Réforme. Le luthérianisme, le calvinisme, et finalement, si on prend tous ces mouvements puritains, etc., eh bien, le mouvement baptiste lui-même, et nous aurons l'occasion de voir qu'il se conjugue avec un autre mouvement sur le continent qui a la même vision du baptême, qui est le mouvement qu'on appelle anabaptiste, mais qui refusera toujours ce nom, car anabaptiste signifie qu'il rebaptise. Or, les baptistes ont toujours refusé de dire, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils rebaptisaient les gens, n'est-ce pas, mais qu'ils baptisaient tout simplement. Donc ici, le chef de file de ce mouvement se nomme Robert Brown, qui va être persécuté et menacé de mort. Il revient à l'église officielle, il a une faiblesse, si l'on veut. Et le ralliement de Robert Brown à l'église d'Angleterre va provoquer la persécution ouverte cette fois-ci de la réforme dissidente en Angleterre, à savoir les congrégationalistes, les baptistes et également les presbytériens qui finalement sont une église calviniste qui est venue d'Écosse, qui a été créée par des réfugiés d'Écosse persécutés et qui sont venus se réfugier en Angleterre. En général, les membres de ces dissidences n'ont pas d'église officielle, mais ils se rassemblent dans des maisons privées ou en campagne. À la fin de son règne, Élisabeth finira par arrêter de persécuter les dissidents. Mais il y a un seul groupe de dissidents contre lequel elle gardera une hargne totale jusqu'à son dernier souffle, ce sera les baptistes. Elle ne peut pas du tout admettre cette idée que on puisse être baptisé à l'âge adulte, car alors ça veut dire qu'on ne naît pas chrétien. Et comme elle considère que le christianisme, tel qu'elle le conçoit, est un des éléments constitutifs de son état, elle refuse à fond donc le baptisme, le mouvement baptiste. D'ailleurs, c'est ce qui se passera à peu près partout en Europe, pour ces raisons-là. Parce que le mouvement baptiste remet en cause le système constantinien auquel les souverains d'Europe, même les souverains protestants, restent attachés. Pour eux, c'est une condition sine qua non de la stabilité de leur trône. Ils estiment que si on peut rejeter la religion officielle par un choix personnel, alors leur règne, leur autorité, leur trône est en danger. Et c'est pourquoi les baptistes et les anabaptistes seront parmi les trois branches de la réforme que nous avons vues, le mouvement qui sera le plus persécuté, avec les conséquences extrêmement graves que nous aurons l'occasion de le voir. Donc, les anabaptistes, les baptistes ou anabaptistes, comme on les appelle, se réfugient, surtout en Hollande. Nous ne sommes pas encore à l'époque où il va y avoir une immigration massive aux États-Unis, ça viendra au siècle suivant essentiellement, mais pendant le XVIe siècle, c'est la Hollande qui va être surtout la terre d'accueil des anabaptistes. D'où le mouvement baptiste en tant que tel, ce qui va devenir officiellement le mouvement baptiste jusqu'à nos jours, a pour berceau la Hollande. Parmi les hommes qui vont jouer une influence à cette époque-là, il faut nommer Arminius. Arminius, qui est un évêque, qui se convertit au baptisme en 1550. Il a été élevé dans le catholicisme. Et il va s'opposer, quand il se convertit, et devient un très grand théologien, il va s'opposer à la doctrine de la prédestination de Calvin. Calvin, vous en souvenez, professait que Jésus n'est pas mort pour tous, pour tous les hommes, mais uniquement pour les élus. Pour ceux que Dieu a élus dans sa souveraineté totale de toute éternité, nous avons vu cela quand nous avons étudié la doctrine de Calvin, et que par conséquent, l'homme n'a absolument aucune liberté en face de l'appel de Dieu, de l'élection de Dieu. On est élu ou on est rejeté, on est élu ou on est réprouvé, simplement selon le bon vouloir de Dieu. Et l'homme qui est sauvé, qui est élu plutôt, se convertit non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il est impossible de résister à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu étant irrésistible, quand Dieu a décidé de faire grâce à un homme, cet homme se convertit, cet homme reçoit la foi qui lui permet d'être sauvé, et cet homme reçoit la grâce jusqu'à son dernier souffle de pratiquer ce qui est juste, ce qui est bien. Ce qui fait qu'il n'est pas possible de perdre son salut, sauvé une fois, toujours sauvé, c'est ça ? Et par conséquent, il y a une éternelle sécurité du salut. Arminius considère que c'est un peu excessif, même si Calvin lui-même peut professer cette doctrine, si vous voulez, dans l'absolu, comme une théorie qui pratiquement n'avait pas tellement de retombées, car Calvin était un homme qui prêchait l'évangile, qui appelait les hommes à se convertir librement, en quelque sorte. Mais si vous voulez, c'était une espèce de doctrine comme ça, de haute théologie finalement, quoi. C'était une théorie. Seulement, comme souvent dans ces cas-là, les disciples de Calvin en tirent des conséquences pratiques que Calvin ne tirait pas. Et notamment, il n'y avait plus justement cet appel à une décision que pourtant Calvin professait. Et alors, finalement, simplement, on espérait être au nombre des élus, mais on ne pouvait jamais être sûr, etc. Bon. Arminius comprend que là, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de profondément erroné, et il souligne contre Calvin la liberté de l'homme face à l'appel de Dieu. Le libre arbitre de l'homme, ce qu'on appelait à ce moment-là le libre arbitre. Et alors, Arminius va rééquilibrer la doctrine des réformateurs, souvent d'ailleurs aussi influencée par des considérations anticatholiques, donc des positions par réaction, ce qui doctrinalement est toujours extrêmement délicat, extrêmement dangereux, de prendre des positions par réaction. Les réformateurs n'avaient pas échappé à ce piège-là. Et Arminius est le grand homme qui, lui, va rééquilibrer les choses. Arminius dit, bien voilà, Jésus est mort pour tous les hommes, pas seulement pour les élus. Et il prend les textes bibliques. Dieu a élu, c'est vrai, la Bible nous parle d'élection. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire ? La Bible veut dire que Dieu a connu d'avance. Parce que Dieu connaît tout d'avance. Et il a su d'avance ce dont le cœur était disposé à répondre librement à son appel et à sa grâce. Et contrairement à ce qu'affirme Calvin, l'homme a la liberté de dire non à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas irrésistible. Et Dieu l'a su. Et Dieu a écrit de toute éternité le nom de ceux qu'il savait devoir répondre à son appel dans le livre de vie. Donc l'homme est responsable en face de l'appel de Dieu. Et son oui à l'appel de Dieu n'est pas une œuvre méritoire, comme le prétend Calvin, ou comme le prétend un certain nombre de calvinistes. Calvin lui-même ne le prétendait pas. Mais comme le prétendait un certain nombre de calvinistes, le oui de l'homme n'est pas une œuvre méritoire, mais la réponse de foi indispensable pour que le salut potentiel qui a été accompli par Jésus pour tous les hommes devienne effectif pour l'homme en tant qu'individu. À partir du moment où l'homme a reçu cette grâce, il est au bénéfice de la grâce de Dieu qui va produire en lui le fruit digne de la repentance, les œuvres dignes de l'Évangile. Mais pendant toute sa vie ultérieure, l'homme devra se maintenir dans cette position d'ouverture à la grâce de Dieu. L'homme ne devient jamais un robot, une marionnette, on ne disait pas des robots à cette époque-là, bien sûr. Ça, c'est un anachronisme. Mais il ne devient pas un pantin entre les mains du Seigneur. Il est toujours dans la liberté de dire non à la grâce de Dieu. Et il a même la liberté, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, après sa conversion, il a la liberté de dire, eh bien, je me retire, de revenir en arrière, de s'endurcir, et donc d'être perdu. Et le fait de s'être converti n'est pas une garantie que l'on sera obligatoirement et automatiquement sauvé. On n'est sauvé que si l'on persévère jusqu'au bout. Et c'est ce que Arminius appelait la persévérance des saints. Reprenons un terme qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a eu une controverse très aiguë, qui dure jusqu'à ce jour d'ailleurs, entre Arminius et ses disciples, et Calvin et ses disciples. Les calvinistes ont accusé Arminius de catholicisme. N'était-il pas un ancien évêque catholique ? De pélagianisme ou de semi-pélagianisme, vous vous souvenez, cette controverse entre Pélage et Augustin, dont nous avons parlé en son temps, mais c'est moins ça, hein, je ne sais pas si vous en souvenez. Pélage qui prétendait que la mort de Christ n'était qu'un exemple et que l'homme avait en lui-même le pouvoir de se sauver par ses propres œuvres. Bon, Augustin prétendait, il était calviniste avant la lettre, si on veut, Augustin, n'est-ce pas, que l'homme n'est sauvé que par la foi. Finalement, la hiérarchie catholique avait donné raison à Augustin contre Pélage, mais Pélage avait hélas laissé des traces, et finalement l'Église catholique s'était installée, en fin de compte, dans un compromis entre Pélage et Augustin, jusqu'à nos jours, un semi-pélagianisme. L'homme est sauvé par la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu lui permet d'accomplir des œuvres qui ne sont pas des œuvres de lui, mais qui lui donnent les mérites nécessaires pour qu'il soit sauvé. Voilà, si vous voulez, la doctrine catholique rappelée très rapidement, quoi. Bon. Alors les calvinistes accusent Arminius de retomber dans cette hérésie-là. Arminius dit non. La grâce de Dieu donne à l'homme la force de vivre des œuvres saintes, ce que les calvinistes ne nient pas. Non pas pour qu'ils aient des mérites et non pas pour qu'ils soient sauvés, car sauvés ils le sont, s'ils persévèrent jusqu'à la fin. La seule différence entre calvinistes et arminiens, c'est que les calvinistes disent « il s'est converti, il est sauvé, quoi qu'il arrive », même s'il devient ensuite un ivrogne, un blasphémateur, un débauché, tout ce qu'on voudra. Et Arminius dit, il est sauvé s'il persévère dans la foi jusqu'à la fin. C'est finalement là le gros point de divergence entre calvinistes et arminiens. Et alors, Arminius dit, les œuvres qui nous sont données d'accomplir ne sont pas données pour que nous soyons sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Parce qu'elles sont le signe, le fruit que nous pouvons constater dans nos vies, nous donne une assurance devant Dieu que nous sommes véritablement greffé sur le cep, puisqu'il y a du fruit. Donc que nous sommes sur la bonne voie. Et bien loin de douter de notre salut et d'être dans l'angoisse, au contraire, nous disons, mais c'est merveilleux, Seigneur. Je constate le fruit dans ma vie, donc tout va bien. Je suis toujours dans le salut de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une question de mérite. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les calvinistes purs et durs continuent à caricaturer donc les gens qui ont cette doctrine en prétendant que ce sont des catholiques, crypto-catholiques, quoi. Par exemple, il y a toute une controverse actuellement des gens de la faculté d'Aix-en-Provence ou des églises évangéliques indépendantes, d'un certain nombre d'entre elles qui ont cette vision d'un calvinisme pur et dur, et qui donc, s'en prenant au mouvement charismatique, qui évidemment, lui, est basé à fond sur l'arminianisme, en disant, bah oui, c'est pas étonnant, voyez, ils ont des contacts catholiques, catholiques charismatiques et tout, ça dérape, c'est parce que ça vient de là, il faut remonter là, l'origine de ces déviations que nous assistons actuellement dans le milieu charismatique, c'est l'arminianisme. Bon, c'est faux. Rien à voir. C'est parce qu'ils ont été séduits sur un autre plan. Ça, ça n'a rien à voir, et tous ne sont pas comme ça. Bon. Alors, ici, un autre point très intéressant de noter, c'est que l'arminianisme va donner naissance au siècle suivant, deux siècles après plus exactement, au méthodisme. Le méthodisme va reprendre l'idée de base, l'intuition de base d'Arminius et l'élaborer méthodiquement. D'où le nom de méthodisme. Car si vraiment je ne collabore pas à mon salut, comme le disent les catholiques, ça n'a rien à voir. Mais je dois veiller toute ma vie à rester sous l'influence de la grâce de Dieu. Car c'est cela, finalement. Alors, il faut que je fasse ça avec méthode. C'est pas rien. Comment, on dit les méthodistes, veiller à rester dans la grâce de Dieu? Et c'est toute la doctrine de la sanctification qui est élaborée. Bon, on n'en est pas encore là. Arminius pose les bases. Mais sur ces bases, Wesley viendra, il va construire. Et toute la mouvance évangélique naît de l'intuition d'Arminius. Voyez-vous? Alors c'est très important. Il y a ici cet équilibre qu'Arminius va réussir à élaborer entre les deux extrêmes que sont Augustin et Pélage. Équilibre que l'Église catholique avait vainement essayé de réaliser. Et qu'Arminius, donc finalement le monde évangélique, va réussir à élaborer, grâce ensuite à des hommes qui vont étayer cette doctrine, comme ce sera le cas de Wesley. Voilà. Nous allons maintenant aborder un nouveau grand chapitre, si vous le voulez, à moins que vous ayez des questions à poser là-dessus, avant qu'on ne l'abordions. Est-ce qu'il y a des questions sur Arminius et Calvin? On y reviendra un peu en doctrine, d'ailleurs. Ça va recouper un peu, là, les choses. Bon, nous abordons maintenant un nouveau chapitre, la réforme en Écosse. En fait, la réforme en Écosse va se faire en deux temps. Il va y avoir, si l'on peut dire, deux réformes. La première réforme sera celle d'un réformateur qui est peu connu, se nomme Hamilton. Et ensuite, la deuxième réforme sera l'œuvre alors d'un grand réformateur qui, lui, est pratiquement aussi célèbre que ne l'ont été Luther et Calvin, John Knox. Mais la réforme de John Knox, qui est la plus connue, a été précédée par la réforme d'Hamilton. Prenons les choses, si vous voulez, aux origines. Il faut remonter à l'époque de Wycliffe. C'est à cette époque-là que sont posées les bases, les premiers fondements de la réforme en Écosse. En 1407, des disciples de Wycliffe, des Lollards, sont brûlés vifs sur la place publique de Perse, en Écosse. Malgré cette première persécution, quelques années plus tard, en 1421, les Lollards reviennent en Écosse et leur prédication provoque un réveil. À nouveau persécution, et un des leaders des Lollards est brûlé vif à son tour. Mais un des archevêques de l'Écosse qui assiste au supplice du martyr, n'est-ce pas, se convertit et il désire réformer l'Église. Bon, il y a donc ici tout un mouvement, déjà, si vous voulez, des espèces de préparation. C'est comme un petit peu une espèce de braise rouge qui est là, qui brûle, quoi. Il suffit d'un souffle de l'esprit et tout ça, ça va s'enflammer. Et c'est ce qui se passe sous le règne de Jacques IV. Jacques IV, donc roi d'Écosse. Épouser une Tudor, une fille donc, du roi d'Angleterre Henri VII, donc sœur d'Henri VIII, Marguerite Tudor. Seulement, entre l'Écosse et l'Angleterre, malgré ces mariages diplomatiques, la situation est loin d'être idyllique. Traditionnellement, Angleterre et Écosse sont ennemis. Et pour faire pendant à l'Angleterre, l'Écosse à un allié qui est non moins traditionnel, qui est la France. France et Écosse, sont alliés contre l'Angleterre. Hélas, fort de cette alliance qu'il a renouvelée, Jacques IV prend l'initiative d'une attaque contre l'Angleterre, mal lui en prend, il est tué dans cette affaire. Son fils, Jacques V, lui succède, si l'on peut dire, car à sa mort, il est âgé de 2 ans. Alors, il y a donc une régence qui, en même temps, inaugure une espèce d'époque plus ou moins anarchique. C'est dans ce contexte que le 23 avril 1500, de l'année 1500, tout à fait au début du siècle, naît celui qui sera le premier réformateur de l'Écosse, Amicius. Ce dernier est le fils de Sir Patrick Hamilton, qui, en 1498, a été élevé au rang de baron de la baronnie de Keravic en Écosse. La femme de Sir Hamilton est la fille du duc d'Albany, qui est lui-même le fils du roi Jacques II. Donc, ce sont des gens qui appartiennent à, je dirais, l'aristocratie dans l'entourage proche du roi. Et cet homme, ce couple, a 3 fils, dont un autre fils qui se nomme Patrick, et qui, à l'âge de 14 ans, se rend à Paris pour étudier. Bon, nous avons vu les liens privilégié qu'il est entre l'Écosse et la France, et il était en général de bon ton, dans le cadre de cette alliance, pour les nobles d'envoyer leurs enfants étudier en France. 5 ans plus tard, en 1505, le second réformateur de l'Écosse naît. Il se nomme John Knox. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais il sera celui qui entreprendra la deuxième vague. Donc, pendant toute cette période de la minorité du roi, Jacques V, il y a une période de troubles. Et en 1522, le père de Patrick, Lord Hamilton, a la malencontreuse idée de se quereller avec un de ses pairs et de le provoquer en duel. Et malheureusement pour lui, dans le duel, il est tué. Bon. Si bien que la famille Hamilton se trouve privée de père orphelin. C'est l'époque où il y a une espèce d'aspiration à une réforme de l'Église. Nous sommes un petit peu dans la mouvance encore du Concile de Constance. Et il y a une espèce d'opposition qui grandit en Écosse contre les principes catholiques, justement dans la mouvance de ce Concile de Constance. Et c'est ainsi que un des, comment dirais-je, des grands de l'Écosse, qui se nomme Mayor, professe, par exemple, comme le faisait un certain nombre de prélats au Concile de Constance, que les États sont au-dessus des Églises et au-dessus des rois, ce qui est pire. Car remettre en cause le principe de l'absolutisme royal au XVIe siècle, voyez ce que ça peut représenter. Quant au jeune Hamilton, en 1523, il revient en Écosse et il étudie dans la fameuse université de Saint-André. C'est 10 ans plus tard, en 1534, que 35 livres de Luther arrivent en Écosse et commencent à circuler. Bien sûr, ils sont recherchés et brûlés. C'est l'époque où Jacques V arrive à sa majorité et il prend fait et cause pour Rome contre la réforme. Mais l'Écosse est beaucoup plus divisée que cela et un parti anticlérical, anti-royal par conséquent, anti-catholique, ne cesse de grandir en Écosse à partir de cette époque-là. Il faut dire que dès 1528, circule aussi en Écosse le Nouveau Testament de Tyndale, nous avons déjà parlé, lequel va être aussi interdit que ne le seront les livres de Luther. C'est en 1527 que Hamilton, qui a eu l'occasion de lire ces livres interdits déjà pendant qu'il était en France, après avoir profondément étudié la doctrine calviniste et luthérienne, se convertit. Et dès 1527, il a l'audace de prêcher la réforme. La riposte est immédiate. Il est déclaré hérétique, arrêté, traduit devant l'archevêque. Comme il est de famille noble, on n'ose pas le condamner d'une manière totale. Il jouit de complicité puisqu'il est noble. Et des amis à lui parviennent à le faire échapper de l'endroit où il est enfermé, et il s'enfuit. Il quitte l'Écosse. Sa première idée, c'était de se rendre à Wittenberg auprès de Luther, mais en cette année 1527, la peste règne à Wittenberg. Donc Hamilton hésite à s'y rendre, et cette même année, avec un de ses amis qui l'accompagne dans son exil, qui se nomme Lambert, après un court séjour sur le continent, il revient prêcher la réforme en Écosse, malgré le fait qu'il est pourchassé. Alors, il y a dans toutes les églises catholiques d'Écosse une levée de boucliers contre l'hérésie. Les prêtres tonnent en chair contre le Nouveau Testament, allant jusqu'à prétendre que le Nouveau Testament a été inventé et écrit par Luther lui-même pour discréditer l'Église. Voilà, au XVIe siècle, les énormités que l'Église catholique est capable de sortir. Bien entendu, le Nouveau Testament est interdit. Celui qui est trouvé en possession de ce livre luthérien risque sa tête. Et c'est cette même année que un autre frère d'Hamilton est nommé shérif de son comté, et en même temps, ce frère et toute la famille d'Hamilton, sa mère qui est restée veuve, se convertissent à la prédication de leur fils. Ils font revenir Hamilton dans sa ville natale, ils prêchent l'évangile librement, un immense réveil éclate dans sa ville. En 1528, il se marie avec une jeune fille de l'endroit et il va se trouver, bien entendu, en conflit avec l'évêque Beaton, B-E-A-T-O-N, qui est un grand adversaire de l'Évangile. Cet évêque décide de tendre un piège à Hamilton et il invite à venir discuter avec des théologiens catholiques de la Réforme à l'université de Saint-André. Là, il va polémiquer avec précisément celui qui va devenir en quelque sorte un autre apôtre de la Réforme qui était né à peu près à la même époque que lui, Alicius, dont nous avons parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et Alicius, qui est là en principe pour le confondre. C'est un théologien catholique. Et après quelques heures de discussion avec Hamilton, c'est pas Hamilton qui se convertit au catholicisme, c'est Alicius qui se convertit à la Réforme. Alors évidemment, gros émoi à l'université de Saint-Andrew. Et alors, un autre théologien qui se nomme Alexandre Campbell, à nouveau soulève l'accusation d'hérésie contre Hamilton. Hamilton est à nouveau arrêté. Il fait appel au roi, qui a le pouvoir de le sauver, vu qu'il est quand même d'une famille noble. Et le roi fait la sourde oreille. À nouveau, des amis proposent à Hamilton de s'échapper, comme il l'a déjà fait la première fois. Mais cette fois-ci, Hamilton, à mon avis, enfin, c'est toujours difficile de dire, hein. A-t-il eu tort ? A-t-il eu raison ? Enfin, toujours est-il que le fait est qu'il refuse de s'échapper cette fois-ci. Il veut aller jusqu'au bout. Alors, il est traduit en justice. Le roi ne lève pas le petit doigt pour le sauver. Campbell, évidemment, est son accusateur essentiel. Et finalement, il est condamné à mort, condamné à être brûlé vif. Et le récit de la mort d'Hamilton est quelque chose d'absolument admirable. Il était d'un calme absolument total le jour de son exécution. Il avait la veille reçu tous ses amis et il avait, comme il était noble, il avait le droit, n'est-ce pas, de recevoir ses amis à peu près librement et même la possibilité d'organiser, aussi étrange que ça paraisse, n'est-ce pas, un repas d'adieu avec ses amis. Il avait mangé bien même, n'est-ce pas, comme pour une fête en quelque sorte. Et s'était entretenu tard avec ses amis de l'Évangile, les encourageant à tenir ferme. Et le lendemain matin, il était allé calme, n'est-ce pas, au bûcher. Et là, il avait pardonné à son bourreau, etc. Il avait pardonné à tout le monde et fait preuve devant la mort d'un courage qui avait impressionné tous les spectateurs. Et ses dernières paroles, alors qu'il était dans les flammes déjà, ont été celles-ci: « Ouvre les yeux de mes concitoyens, afin qu'ils puissent un jour connaître la vérité. » Et Dieu a entendu cette prière. Et quelques années plus tard, n'est-ce pas, effectivement, toute l'Écosse a été gagnée à la Réforme. Hamilton a malheureusement pour lui été supplicié, comme on le faisait pour les grands criminels, n'est-ce pas, à petit feu. Son supplice a duré de 6 heures du matin jusqu'à midi, n'est-ce pas ? Et les prêtres étaient là, essayant de le pousser à la révolte, et pendant ces heures affreuses, n'est-ce pas, où il était ainsi torturé, Hamilton est resté d'un courage absolument exemplaire. Son ami Alicius, qui s'était converti, nous l'avons vu quelque temps auparavant, et a été à nouveau arrêté, alors qu'il présidait un synode, mais lui est parvenu à s'évader et à se rendre en Angleterre en 1532. La mort d'Hamilton a fait une grande impression. Hamilton était un homme d'une grande famille, nous l'avons vu. La manière dont il est mort, son courage, sa constance, sa sérénité a impressionné les foules. Et après la mort d'Hamilton, la révolte grondait. Les nobles notamment, se sont tournés contre le pouvoir, contre les prêtres. Et ils ont pris langue avec Henri VIII. Henri VIII qui était en train, à cette époque-là, de virer vers la réforme. Et même le confesseur du roi s'est converti. Donc c'était vraiment l'échec total que la mort d'Hamilton pour le pouvoir. Bien entendu, le confesseur du roi n'a pas attendu d'être inquiété. Il a pris les devants, il s'est enfui. Et les condamnations ont commencé, les arrestations se sont poursuivies. Un moine qui s'était converti a été brûlé vif. Un noble, plus quelques amis d'Hamilton, ont été arrêtés et brûlés à leur tour. Alors que, finalement, il y avait, dans toute cette situation, ce qui était en train, ce qui s'était passé en Angleterre quelques années plus tôt. Car, somme toute, le pouvoir royal, après tout, n'était pas tout à fait opposé à l'idée de voir naître une idée nationale, de voir naître une église nationale à l'image de l'église d'Angleterre. Mais il ne voulait pas, évidemment, d'une réforme aussi radicale que celle que souhaitait Hamilton. Un autre moine se convertit. Il se nomme Thomas Forrest. Et cet homme va reprendre le flambeau. C'est l'époque où Jacques V, le roi, épouse une princesse française, Marguerite de Valois, qui est la belle-sœur de Catherine de Médicis, c'est tout dire, vous voyez ce que ça peut représenter. Et en même temps, le roi de France, Henri II, épouse une princesse écossaise, Marie Stuart. Marie Stuart qui va faire parler d'elle beaucoup. Or, bien que princesse française et belle-sœur de Catherine de Médicis, Marguerite est une personne qui est ouverte à l'Évangile. Et même qui se tourne vers le Dieu. Alors, c'est très difficile de dire, s'est-elle véritablement convertie ? N'est-ce pas ? C'est très difficile de dire, mais en tout cas, elle meurt, malheureusement pour elle et pour les protestants d'Écosse, le 2 juillet de la même année. Le roi se remarie avec Marie de Lorraine, qui est une Guise, c'est-à-dire une représentante du parti pro-catholique le plus acharné qui est en France à cette époque-là. Et résultat de ce mariage, en décembre 1538, l'évêque Bicotte, grand ennemi de la Réforme, est nommé cardinal. Et il entreprend une guerre terrible pour exterminer la Réforme. C'est alors que l'ancien moine Thomas Forrest est arrêté, traduit en procès, et avec lui, 5 martyrs sont brûlés vifs comme résultat de cette répression. Mais la prière d'Hamilton sur son bûcher va quand même être exaucée, et l'Évangile n'est pas lié, quand bien même les martyrs tombent, eh bien, l'œuvre de Dieu se poursuit et nous allons voir la prochaine fois que finalement, eh bien, rien ne pourra arrêter le souffle de l'Esprit de Dieu en Écosse jusqu'à ce que surgisse John Knox qui donnera l'élan de la deuxième vague de la Réforme en Écosse. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus ?